Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de NFV avec Sylvain Labétoul.
Bonjour.
Nicolas Fischbar.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
Alors avant de commencer, je souhaiterais porter à votre connaissance l'appel à soumission d'une conférence qui s'appelle BIRUMP, qui se tiendra à Paris le 16 juin et dont le principe est tout à fait intéressant puisqu'il s'agit de conférences courtes, donc entre 5 et 10 minutes, du fun et de la sécurité. Donc plus d'infos sur le site de BIRUMP, BIRUMP, b2erump.github.io.
Alors, le NFV qu'on va définir juste après, mais qui fait suite au SDN. Donc si nos auditeurs n'ont pas écouté l'épisode de décembre sur le SDN, je pense qu'ils devraient d'abord écouter cet épisode avant d'attaquer le NFV. Donc le NFV, c'est quoi ?
NFV, donc Network Function Virtualization, c'est la virtualisation qui arrive dans le réseau. C'est parti principalement d'un paper qui a été écrit par différents opérateurs pour expliquer aux constructeurs qu'ils avaient besoin de séparer de plus en plus la partie software de tous les équipements réseau qu'ils avaient de la partie hardware, tout simplement parce qu'il y a des cycles de développement qui sont très très différents entre le monde du software et du hardware. Et s'en est suivi derrière la création d'un groupe de standardisation donc au niveau de l'Europe qui s'appelle l'ETSI, qui a essayé, je dirais, de créer un standard, un framework pour expliquer tout ce qu'il y avait derrière NFV. Puis ensuite ça a été l'effervescence avec tout un tas d'initiatives et de produits qui sont arrivés sur le marché. Donc Network Function Virtualization, pour donner juste quelques exemples, ça va de je virtualise mon load balancer, je virtualise mon firewall, je virtualise un route réflecteur au milieu d'un réseau, où je virtualise une IMS plus dans le monde mobile. Donc c'est vraiment toutes les fonctions réseau que aujourd'hui on est en train de regarder pour tenter de les virtualiser ou pas, puisque bien sûr malheureusement tout sera pas virtualisable.
En gros, ça revient à remplacer des appliances bourrées d'ASICS par du pur software et des CPU x86.
Oui, c'est un peu ça l'idée, avec bien sûr toutes les conséquences que ça a, en particulier au niveau des performances.
Tout en sachant, Vlad, que tu virtualises pas tout, que tu vas te retrouver surtout à virtualiser des équipements qui sont plutôt en bordure de réseau, des équipements qui vont faire ce qu'on dit la couche 4 à 7, donc du parc virtuel, de la répartition de charges, etc. Par contre, l'objectif, c'est pas de virtualiser des routeurs de cœur de réseau. Tu parlais de plein d'ASICS, de FPGA et autres, etc. Ceux-là ne vont pas disparaître, clairement pas. C'est vraiment tous les éléments que tu as trouvé en bordure de réseau que Sylvain a aussi cité.
Donc, en général, pour simplifier, j'explique que tout ce qui a besoin d'envoyer énormément de bandes passantes, en général, ça, il vaut mieux que ça reste sur le hardware tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis après, tout ce qui est fonctionner était un peu plus avancé, si on parle d'une IDS par exemple, où on remonte dans les couches réseau, là en général le x86 étant plus souple en termes d'utilisation, effectivement là il y a une vraie plus-value à essayer de virtualiser.
Oui, je disais, l'un des intérêts aussi c'est de pouvoir apporter des fonctionnalités réseau ou sécu, voire comme du filtrage, des choses comme ça, directement en sortie des VM et non plus à faire repasser tout le trafic par un point central pour réaliser des fonctions de sécurité par exemple.
Exactement, je pense que si tu prends vraiment l'approche du centre d'hébergement du data center, c'est exactement ça. Tu as tous les éléments de virtualisation du réseau pur, donc les éléments SDN par exemple, tu parles de micro-segmentation, etc. Et tu changes vraiment l'aspect physique vers l'aspect logique, c'est-à-dire au lieu de devoir câbler vers un pare-feu physique, comme tu le disais, en fait tu auras une connexion logique, ce qu'on appelle du service chaining, ou du chaînage de services vers un élément pare-feu, un élément de terminaison SSL qui va chiffrer, déchiffrer, etc. C'est vraiment, ça te donne cette flexibilité. Et en fait, tu as la flexibilité autour au niveau logique sur les moyens que tu vas avoir de coupler ces éléments, mais aussi sur la montée en charge. Donc historiquement, quand ton pare-feu, il pouvait plus monter en charge, qu'est-ce que tu faisais ? T'en rajoutais un, t'en rajoutais un plus gros. Là, en fait, ce que tu fais ce qu'on appelle du scale-out et du scaling, c'est-à-dire que tu rajoutes des VM à la demande et tu les chaînes pour monter en charge et redescendre en charge quand tu n'as plus besoin. Donc t'as beaucoup plus net, c'est beaucoup plus dynamique et t'as une montée à l'échelle qui est beaucoup plus alignée avec tes demandes que si tu es obligé de déployer des équipements physiques ou les enlever à chaque fois, et tu sais très bien que tu les enlèveras jamais.
c'est les gens du réseau tout simplement qui découvrent les joies du software et de la virtualisation. Hein. Virtualisation, ben, à partir du moment où je suis moins adhérent aux couches hardware, je peux faire ben, beaucoup plus de choses, déplacer des objets, recréer des architectures de manière beaucoup plus simple dans le monde virtualisé. Je peux avoir des cycles de développement beaucoup plus agiles où je peux tenter de sortir des nouvelles features ou insérer des nouveaux composants quasiment chaque jour, alors que fatalement, à chaque fois que je suis ramené à un hardware, développer un nouvel ASIC pour une nouvelle plateforme, c'est 2 à 3 ans de boulot. Et ben, pour les opérateurs aujourd'hui, attendre qu'une nouvelle feature s'arrive d'ici 2 ou 3 ans, ben, c'est plus possible. Et en termes marché, les opérateurs doivent répondre maintenant quasiment à la semaine s'ils veulent rester dans les tendances actuelles.
Tu veux dire que dans tout ça, il n'y a aucun hardware spécifique, c'est du serveur du PC classique qui est racké et qui fait tourner du logiciel.
Ben après, il y a plusieurs types de façons de traiter au final un paquet ou un processus réseau. Hein. Donc si on prend le plus optimisé, l'ASIC, où lui, il a été fait pour traiter et pour en général gérer des très gros volumes. C'est comme ça ben, que le monde du réseau a pu survivre à la montée d'Internet dans les fins des années 90, voire monde du mobile plutôt dans les années 2000. Donc là, encore une fois, on est sur des hardware très très spécifiques, mais en même temps très statiques et non programmables. Puis après, tu peux avoir des choses un peu plus intermédiaires. Donc typiquement, aujourd'hui, on peut parler de GPU ou de NPU, donc Network Processor Unit, donc c'est FPGA, enfin toute la gamme, je dirais, des ASIC programmables. Donc fatalement, qui dit programmable dit que c'est aussi moins bien optimisé qu'un hardware. Alors la contrainte de ce genre d'outils, c'est que en général c'est quand même relativement complexe à utiliser, mais c'est une étape intermédiaire. Et puis après, ben vous avez l'étape la plus générique, hein, x86 voire ARM dans certains cas, qui est extrêmement utilisé partout, qui du coup, comme il est très extrêmement utilisé, ben les coûts d'utilisation et d'acquisition sont relativement faibles, et derrière un nombre d'outils très importants pour développer autour. Donc en fait, on a un range, je dirais, du moins agile et du moins évolutif, qui est l'ASIC, mais qui est le plus performant, à celui qui est le moins performant aujourd'hui pour traiter du réseau, mais qui est le plus générique et le moins cher, qui l'x86 ou l'ARM.
Mais bon, faut pas oublier non plus, c'est pas du x86 de papy et mamie, pour dire ça comme ça. En fait, maintenant, quand tu achètes du hard x86, ou que ce soit du ARM ou du RISC ou autre, ça fait déjà comme sur les cartes réseau qui font de l'offloading TCP, donc qui recalculent des choses directement dans les cartes réseau. Par exemple, chez Intel, t'as ce qu'on appelle du DPDK qui permet d'optimiser ça. C'est un toolkit qui permet de gérer les paquets sur, c'est-à-dire une file ou un chemin qui est privilégié. Si tu regardes dans les hyperviseurs, tu as des choses comme VMnet 3 chez VMware, ou dans les piles type VMware, qui sont aussi optimisées pour gérer du trafic réseau de façon différente, etc. Donc c'est pas juste de prendre un bout de soft qui avait été codé pour tourner sur de l'ASIC, de l'FPGA et autres, et de le faire tourner sur du x86 tout simple, quoi. T'as vraiment des fonctions d'optimisation. Sinon, tu te retrouves effectivement très limité en bande passante. Juste pour donner un exemple, dans les premières instances de virtualisation, il y a quelques années, tu arrivais peut-être sur un PC type normal, avec un bus PCI ou autre, à peut-être sortir 100, 200 mégas de bande passante. Aujourd'hui, sur des équipements relativement bon marché, tu arrives à sortir 10 ou 40 gigas de bande passante. Donc tu te retrouves vraiment, tu vois, c'est l'équipement, un routeur de cœur de réseau d'il y a 20 ans, ou d'il y a 10 ans, bah aujourd'hui, tu fais tourner ça sur un PC traditionnel, de manière virtualisée. C'est ça qui a aussi permis cette évolution.
Il faut voir que les constructeurs sont pas fous, hein. En l'occurrence, Intel, qui est quand même très dominant dans le monde du x86. Regardez les roadmaps d'évolution des processeurs Intel ces 3 dernières années. Quasiment la moitié des features, c'est du réseau. Parce qu'ils ont bien senti que, au travers de la virtualisation, et eux étant dominants dans le marché du x86, il y a un marché énorme pour eux à acquérir, que ça soit d'ailleurs au niveau des cartes réseau qu'ils font ou au niveau des processeurs. Et donc, ben, ils mettent aussi les moyens pour faire en sorte que ça soit de plus en plus performant pour le monde du réseau.
Et est-ce que tu vois, si tu regardes certains équipementiers, même d'équipementiers entreprises qui ont des fonctions de pare-feu sur des appliances aujourd'hui ou des choses similaires, il y en a beaucoup juste pour essayer de contrer un peu cette vague NFV, ce qu'ils prenaient, ils prenaient ce qu'ils avaient développé pour faire tourner sur leur propre appliance, ils l'ont purement et simplement virtualisé. Donc ils ont fait l'équivalent d'une VM, d'une image VMware, d'une image KVM, d'une image Xen, etc. Et ces choses-là ne montent pas très bien en charge. Donc ce qu'il faut que tu regardes vraiment, c'est tu choisis en tant qu'opérateur quelqu'un qui t'a développé un logiciel spécifiquement pour NFV, qui fonctionne avec cette pile NFV et qui va utiliser toutes ces fonctionnalités d'accélération que tu as retrouvées chez un tel ou autre.
Après, tu as effectivement certains éditeurs qui ont juste réalisé une simple machine virtuelle, auquel cas ça fait pas vraiment du NFV, ça te permet de communiquer entre différentes VM et ta VM par exemple Firewall, alors qu'il y a d'autres éditeurs, je sais pas si on peut citer des noms, mais comme Palo Alto, ou là par exemple qui font vraiment la micro, enfin de la virtualisation et de la micro-segmentation, qui sont au cœur de l'hyperviseur, par exemple avec les solutions NSX de VMware, et qui permettent vraiment d'avoir des performances maximales. Et sans justement avoir la VM entre guillemets à l'ancienne par laquelle passent tous tes flux.
Exactement, en fait, t'as pas mal d'éditeurs de solutions spécifiques pour parler plus sécurité qui sont associés avec justement des fournisseurs d'hyperviseurs et de piles type SDN et autres. Donc, t'as cité NSX avec Palo Alto. Après, t'as des startups qui sont aussi spécialisées dans ce développement. Par exemple, il y a Versa qui est une startup. En fait, ils sont créés pour faire ça. Et leur cas d'usage sont spécifiquement de la sécurité pour faire du NFV ou du software defined VPN, donc des choses qui vont remplacer des réseaux privés virtuels, etc. Et eux, ils ont vraiment réécrit leur pile, leur soft, pour que ça fonctionne dans un environnement de ce type-là. Ils n'ont pas essayé de faire une migration d'un code qui existait depuis des années.
De toute façon, la performance, c'est un des très très gros sujets autour de NFV. Hein, donc, quel est le moyen le plus optimisé? Effectivement, un format VM, c'est pas forcément le plus optimisé. Il y a beaucoup de réflexions autour de le réseau et les conteneurs. Comment ça se passe demain, justement, avec des fonctionnalités réseau. Et donc, là où pour SDN, on s'était énormément intéressé à la partie control plane, ben dans NFV, il y a énormément de challenges adressés sur la partie data plane. Donc, c'est l'endroit où on fait transiter les paquets et même des projets open source, typiquement Fastayog là qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou Cisco a open sourcé VPP, Vector Packet Processing, qui est vraiment de l'optimisation pour traiter des paquets, je dirais, dans un monde virtualisé. C'est un héritage d'ailleurs de leurs anciens routeurs qui avaient encore des fonctionnalités qui passaient au travers des processeurs. Qui était relativement peu puissant.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle pas mal, tu vois, technologie et performance. L'autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect coût. Donc le TCO des solutions NFV. Tout le monde disait au départ, bah, NFV, ça va te permettre d'acheter des choses moins chères, puisque tu n'auras plus besoin d'acheter le hardware, tu vas plus acheter qu'un élément software. Et donc tu vas plus payer que la licence pour l'élément soft, etc. Mais les gens, ce que les gens oubliaient, bah, il faut quand même que tu construises un réseau en dessous. Il faut que tu aies ce qu'on appelle le compute stack, donc ton x86, il faut que tu aies la plateforme, il faut que tu la gères, il faut que tu aies du stockage, il faut que tu aies les bons processeurs, il faut que tu aies de la mémoire. Tu vas avoir la licence pour l'applicatif en lui-même que tu vas déployer, tu vas avoir la licence pour la plateforme de management qui va permettre de contrôler tout ça. Il faut que tu aies l'élément de service chaining avec SDN. Donc finalement, tu vois, les gens oubliaient que c'était pas juste prendre un bout de soft et le faire tourner dans un élément virtuel. Tu as tous les éléments qui te permettent de l'opérer et de la gérer, qu'il faut aussi prendre dans ta base de coûts. Et ça refroidit pas mal de monde. Et les premières années, tu voyais que la phase d'adoption était relativement, ou la courbe d'adoption était relativement faible, justement pour ça. Parce que les gens se rendaient compte que finalement, l'investissement initial sera beaucoup plus élevé, le temps de mettre en place cette première plateforme qui va supporter tes premières solutions NFV.
Ben la partie CapEx, c'est vrai qu'au début, NFV était vendu, vous allez gagner sur la CapEx, vous allez gagner sur l'OPEX, c'est fabuleux. Donc ça, c'est le monde des licornes et des bisounours, hein, mais c'est vrai que dans certains cas, on peut arriver à optimiser du CapEx, mais c'est pas vraiment là où moi je vois aujourd'hui les vrais gains. Par contre, qui dit softwarisation, dit cycle plus agile, dit automatisation. Il y a énormément de choses qui sont travaillées autour de l'automatisation. Et par contre, au niveau OPEX, on voit que typiquement, il y a pas mal de choses intéressantes à les gagner. Après, tout dépend de là où on part. Il y a un long chemin pour y arriver, et je dirais là, vraiment, on en est au tout début des déploiements. Donc, tout le monde apprend en marchant, ce qui fait que, ben, effectivement, ça refroidit pas mal de monde sur une généralisation plus globale. Bon, on peut dire que d'ici 5-6 ans, ça sera certainement beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans le début, les premiers tests, les impacts que ça peut avoir sur les organisations, hein, puisque c'est la rencontre de l'IT et du monde du réseau. Hein. Faire tourner des fonctionnalités réseau sur des serveurs, c'était deux mondes qui se parlaient pas avant. Donc voilà, il n'y a pas que des aspects technologiques, mais des aspects humains, des aspects de formation pour les personnes, pour qu'elles soient suffisamment compétentes sur le sujet. Donc c'est quelque chose de très très intéressant et c'est une vraie révolution dans le monde du réseau.
Il y a aussi les aspects sécurité. Alors, le NFV a combien de CVE ?
Ah, le NFV a combien de CVE ? C'est une très bonne question. Ben, si tu prends beaucoup de fournisseurs, ben, par exemple, de solutions sécurité, on prend Firewall, Load Balancer, etc., les formats VM qu'ils ont, très souvent, tu vas retrouver exactement les mêmes vulnérabilités. Donc, des CVE, on en a un certain nombre. Est-ce qu'il y a des CVE qui sont spécifiques au monde du NFV ? Ben, quand on voit des nouvelles features avec des nouvelles architectures, oui, malheureusement, il y en a des nouvelles, mais c'est même toute la stratégie, les réflexions sécurité qui sont très différentes. Hein. Quand on part d'un mode où on avait une fonction sur une boîte et on va vers un monde où on est full virtualisé, on est mutualisé sur des infrastructures potentiellement cloud on doit cohabiter avec tout un tas de personnes, ça change complètement tous les fondamentaux sécurité que l'on avait par rapport à avant.
Après, une vulnérabilité d'évasion de machine virtuelle, là par contre, ça vaudra le coup. Parce que autant avant, tu étais quand même limité à l'hyperviseur et donc au serveur, là tu auras accès à tout, firewall, routeur, serveur, ça va être la fête du slip.
Oui, mais après, enfin, évasion de machine virtuelle, mais ça, c'est aussi du code qui traite des paquets réseau. Et IPv6 a prouvé que quand il y a du code qui est ajouté, en général, il y a quelques années avant que le code commence à être un peu robuste, si là, tout a été réécrit, qu'il y a des librairies de traitement de paquets qui ont été entièrement réécrits from scratch, open source ou pas open source, je pense qu'il doit y avoir des bugs et que du coup, tu peux les déclencher à distance. Est-ce qu'il y a des exemples de failles de sécurité affectant spécifiquement des implémentations NFV ?
À ma connaissance, non, pas encore, mais après, tu as l'exposition quand même limitée, et puis après, il faut voir les cas d'usage que tu as aujourd'hui. Ils sont quand même encore relativement très limités pour ceux qui sont déployés tu vois, à grande échelle. Et ceux qui sont relativement connus, c'est la virtualisation de CPE, la virtualisation de l'équipement de couche 3 qui est très chez un client, où le mettre du client pour avoir un équipement supplémentaire, bah, tu le déportes sur ton cœur de réseau. Donc par exemple, faire du routage IP, du pare-feu, etc., ou le faire chez le client, tu le fais sur la bordure de réseau. Ça se fait relativement couramment chez beaucoup d'opérateurs maintenant. T'as la partie pare-feu qui est relativement commune aussi, et après la virtualisation de cœur de réseau mobile. Mais tu vois, c'est pas forcément des choses qui sont directement exposées. Et très souvent, des éléments de virtualisation de réseau de cœur mobile, tu vas plutôt virtualiser le plan des éléments de contrôle et moins des éléments qui processent des données. Donc tu vois, je pense que l'exposition est encore relativement faible. Par contre, ça va être un peu comme IoT et tout ce qu'on a connu quand on exposait les premiers pare-feux à Internet, aux méchants Internet à l'époque. Je pense qu'on va voir les mêmes choses sur des plateformes NFV. Autant les plateformes qui hébergent les composants NFV, que les composants NFV eux-mêmes.
Je me fais assez peu d'illusions, hein. Comme toutes les nouvelles technologies, pour gagner un marché, il faut d'abord sortir les features, et puis après, les gens y mettent en production, donc ils s'aperçoivent qu'il faut faut sortir des outils de management performant et de troubleshooting, hein. Donc toute la partie exploitabilité, ça arrive en deuxième, puis après, ils se font plomber, et puis après, ils regardent la sécurité, donc quelles que soient les nouvelles technologies, hein, la sécurité, ça vient malheureusement un peu tard, mais cela dit, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la démarche NFV, que ça soit au niveau de l'ETSI a déjà pas mal réfléchi à la sécurité, donc en fait ils ont sorti un certain nombre de papers que vous pouvez aller lire, qui sont en libre accès sur leur site, hein. Un premier, déjà ils ont posé les problématiques que ça allait poser en termes de sécurité, avec des choses assez marrantes, quoi. Comment crasher de manière sécurisée, c'est bête à dire, mais qu'est-ce qui se passe quand on crache, comment on peut faire éviter que trop d'infos sortent, etc. Donc il y avait des choses très intéressantes où ils ont posé les problématiques, puis après ils ont essayé d'y répondre, donc ils ont sorti tout un catalogue de services, ils ont parlé d'un certain nombre de notions de hardening, mais bon, ça reste encore l'organisme de standardisation, c'est quand même assez high level, ils discutent de choses très intéressantes, comment faire du trust au sein d'une VNF, donc une fonction virtualisée, comment faire des trusts entre différentes fonctions virtualisées, comment ouvrir à un tiers, comment être hébergé chez un tiers, tout ça c'est de nouvelles questions qui se posent. voire même ils ont posé sur la table toutes les nouvelles problématiques que ça allait poser d'un point de vue régulation, parce que qui dit virtualiser, bah potentiellement ma fonction réseau, elle peut être dans un pays un jour et puis elle peut être dans un autre pays dans un autre jour. Par contre, en termes de régulation, peut-être qu'entre les deux pays, ils ont pas tout à fait la même vue. Toutes les problématiques d'interception légale, etc., sont assez challenging dans un monde virtualisé. C'était beaucoup plus simple de faire ça quand on avait une boîte qui était bien identifiée à un endroit. Aujourd'hui, quand il y a des choses qui se déplacent dans du virtualisé, comment je gère une preuve, comment je sais qu'à un instant T, tel VM était à tel endroit ou tel conteneur était à tel endroit, c'est des très très grosses problématiques qui se posent aujourd'hui.
Ouais, le fait que tu perdes cet attachement physique quand tu virtualises et que tu fais du scale-in, scale-out ou du déploiement à la demande, etc., c'est un sacré changement. Par contre, ça a aussi des avantages. C'est-à-dire que tu peux, comme on disait avant, tu peux déployer beaucoup plus vite, tu peux corriger beaucoup plus vite, tu n'as plus d'aspect physique à câbler, et très souvent, tu as un système de politique centralisée. Donc tu vas gérer tes politiques, qu'elles soient réseau, sécurité, haut, de manière centralisée. Tu pourras les auditer plus simplement aussi. Et quelque chose qu'on a déjà vu avec, sur pas mal de déploiements, que ce soit du SDN et du NFV, c'est que ces mécanismes de template, de créer une sorte de cadre de référence et des politiques centralisées, tu vois, tu le fais une fois et c'est déployé, c'est répliqué, ça disparaît, ça réapparaît, tu sais exactement ce qui se passe et tu vas pas te retrouver avec une plateforme ingérable au bout d'un an parce que tout le monde touche un peu partout. En fait, ils peuvent plus le faire.
Ils peuvent plus mettre les pinces croco non plus, c'est un problème.
Bon, après les pinces croco, je veux dire, tu peux toujours les recréer virtuellement. Ton mécanisme de service chaining et le fait que tu aies accès au plan de contrôle, rien ne t'empêche de faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, tu vois, dans un réseau d'opérateurs, pour des aspects opérationnels, il faut que tu puisses à un moment ou à un autre, quand tu as des problèmes réseau, regarder le trafic. Donc on ne parle même pas d'interception légale et autres, mais vraiment tu as de gérer ton réseau. Donc tu as ce qu'on appelle des tables virtuelles. Tu as des moyens de rediriger ton trafic et de faire un port miroir, etc. Et sauf que tu vas le faire plus dans le monde physique avec une tape sur une fibre ou des pinces croco, mais tu vas le faire avec une copie de paquet virtuel que tu vas sortir sur notre interface.
Oui, mais donc ça se voit dans la configuration centrale.
Exactement, tu vois, tu as des mécanismes d'audit qui seront peut-être un peu puissants, donc tu perds peut-être d'un côté sur des choses où tu avais des contraintes physiques, il fallait l'accès physique, et là tu as plus besoin de l'accès physique. Par contre, à contrario, tu as des choses où tu auras des bénéfices parce que tu pourras tracer des choses que tu ne pouvais pas tracer auparavant. Ou pas forcément de manière aussi simple.
Alors la super console de gestion centralisée, j'imagine qu'en termes de sécurité, c'est comme un point de panne assez important.
Point de panne, pas tellement, parce qu'en fait, tu vas gérer tes configurations de manière centralisée, par contre, après, elles sont poussées dans le réseau et sont distribuées. Tu vois, il y a...
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que le gars qui récupère l'accès à cette console... Pour le coup, il y a l'accès à absolument tout le réseau jusqu'au fin fond de ton...
Ouais, après c'est le problème de la centralisation, c'est toujours le même. Donc après, est-ce que tu vas, je pense que de toute façon dans les premières années, tu auras plusieurs consoles parce que tu auras pas ton single pane of glass qui va gérer le réseau, la virtualisation, tous tes VNF des différents vendeurs, etc. Donc tu auras quand même quelque chose qui sera naturellement distribué parce que tu n'auras pas une intégration forte. Par contre, effectivement, dès que tu centralise, que tu automatises et que tu veux simplifier ça, tu as forcément des points de concentration qu'il faut sécuriser de manière plus importante. Mais ça, c'est vrai dans tout, hein, que ce soit dans ça ou dans SDN ou dans n'importe quel autre élément.
Exactement, c'est pas vraiment une problématique réseau, hein, c'est pas forcément aussi une problématique nouvelle, hein. Automatiser, centraliser, ça existe à tout un tas d'autres endroits, hein. Dans une infrastructure IT classique, quand on gère, on essaye de centraliser, d'automatiser, dans un data center, c'est fait normalement régulièrement. Donc c'est pas forcément des nouveaux risques, enfin c'est des nouveaux risques souvent pour les gens du réseau, mais ça reste des risques que l'on connaît par ailleurs, sur lesquels on a trouvé un certain nombre de moyens. C'est sûr que une erreur humaine quand vous tapez des lignes de conf en CLI dans votre routeur ou une erreur humaine dans un script, ça n'a pas le même impact, hein, ça c'est très clair. Donc ça veut dire que c'est aussi d'autres méthodologies à apprendre derrière. Après, oui. Demain, celui qui a la main sur le méga contrôleur ou l'orchestrateur, oui, il a la main sur tout le réseau. Ouais. Ce qui peut poser problème, d'ailleurs, parce que dans un monde NFV, on réfléchit à plusieurs, c'est-à-dire que normalement, je vais ouvrir des API des tiers. Donc potentiellement, j'ouvre mon infrastructure à quelqu'un qui veut poser une VNF dans mon réseau. Ça peut faire partie d'une notion de B2B, où je peux ouvrir à mon client mes API parce que j'ai envie qu'il s'auto-configure son VPN MPLS avec son firewall au milieu. Et donc ça veut dire que avant j'étais dans un modèle extrêmement fermé où je sécurisais et blindais tous mes accès de management, et là je vais devoir ouvrir une partie de mon back-end d'infrastructure réseau parce que je vais m'interfacer avec tout un tas d'acteurs.
Mais finalement, tu vois, Nico,
tu peux définir VNF, parce que je suis pas sûr que...
Alors, VNF, Virtual Network Function, donc c'est la fonction virtualisée réseau, donc un Virtual Firewall, un Virtual Load Balancer, etc.
Et Nico, tu vois, toi qui est un pro du comment faire un pentest, et on sait très bien que tu commences par l'Active Directory, bah tu vois, dans ce cas-là, bah tu vas commencer par ce contrôleur central. Donc si tu vas un peu développer tes compétences, tu vas regarder comment fonctionnent tes contrôleurs et tu utiliseras tes mêmes techniques que tu utilises contre un AD, contre ce type de contrôleur. Mais tu vois, c'est exactement la même chose, quoi.
C'est pas la peine, parce que le référentiel des comptes et des habilitations, ce sera l'AD. Donc il suffira de péter l'AD pour avoir accès à toute l'infra.
Tu vas très rarement te retrouver chez des opérateurs où tu vas avoir l'équivalent d'un AD ou d'un domaine Windows pour gérer ce genre de choses. Tu vas te retrouver avec du Radius, du Tacax, du LDAP, ce genre de choses, mais tu vas te retrouver très très rarement en face d'un domaine de type Microsoft avec un AD.
Ouais, je suis pas sûr, avec des infra comme chez de l'opérateur, je pense pas, mais chez des gros clients où ça c'est poussé par on va dire les gens de la virtualisation, qui eux-mêmes ont déjà des comptes plutôt sur de l'AD utilisé sur l'infra virtuelle.
Oui, dans l'entreprise, je suis d'accord avec toi. Non, moi, je parlais plus vraiment du côté opérateur. Mais clairement, de l'entreprise, ouais, je pense que les gens qui sont sur des développements, etc., qui ont très souvent du VMware ou équivalent, exactement, ils ont sans doute un AD lié, ouais, effectivement.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans la mouvance, SDN, NFV, il y a une grosse partie autour de l'open source. Hein, c'est ce qui est pas forcément habituel dans le monde des opérateurs. Hein, comment je fais mon infrastructure virtualisée à base d'OpenStack, comment je fais mon SDN contrôleur à base d'OpenDaylight, comment je fais mon firewall virtualisé. Là, il y a tout un tas de développements. Donc, il y a un gros trend open source. Les opérateurs, comment je m'organise pour faire de l'open source, comment je sors des développeurs, comment je participe à des communautés si j'ai envie que ça aille dans les deux sens. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Donc si vous voulez aller regarder dans cette tendance-là, il y a là où Let'sy a fait énormément de standardisation, il y a des gens qui ont essayé de regarder concrètement comment on essaye d'implémenter une stack open source complète. C'est OpenNFV qui travaille sur les fonctions virtualisées, l'infrastructure virtualisée, toute la partie management et orchestration, avec des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, ils réfléchissent eux aussi à la sécurité, où ils ont développé tout un tas de choses comme des guides de hardening pour améliorer la configuration des plateformes, des tests fonctionnels pour aller vérifier que tout ce qui est installé, justement, on parlait de CVE tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des CVE connus, hein, donc c'est des scripts automatisés venant du NIS sur lesquels ils sont intéressés, et puis comment faire le management de la sécurité sur une plateforme complète, ce qui est pas toujours très simple. Hein. Où est-ce que je capture mes paquets, comment je centralise mes logs, comment je les analyse, comment je fais la corrélation. Donc il y a un projet qui est en cours autour d'OpenNFV. Donc ça bouge pas mal, et ça bouge pas mal à la fois avec les éditeurs et dans le monde.
Et je pense qu'il y a intéressant, on a peut-être donné l'impression que tu vois que c'est quelque chose qui est très très centralisé et que tu as un point de concentration unique dans un opérateur, voire dans une grande entreprise, et finalement tu vas te retrouver avec quelque chose qui va être assez réparti, voire distribué en fonction du mot que tu as adopté. Donc tu auras vraiment des points de concentration encore dans les gros centres d'hébergement, effectivement. Par contre, chez les opérateurs, tu vas aussi te retrouver avec des fonctions virtualisées dans ce qu'on appelle les POP ou les colos, etc. Donc on a des points de concentration plus réseau qui sont, tu vois, si tu prends la France, distribuée peut-être dans des grandes villes françaises, et tu as des choses qui vont se retrouver chez les clients, ce qu'on appelle le NFV distribué. enfin ou des NFV. Donc c'est pas juste, on va tout centraliser, on va faire du mainframe dans un gros centre d'hébergement. Tu vas sans doute avoir quelque chose de réparti en fonction de tes besoins de placement pour éviter de ce qu'on appelle faire du tromboning, donc de concentrer du trafic quelque part, ou parce qu'il y a une fonction qui fait plus sens de la faire tourner localement que de la concentrer sur un centre d'hébergement central. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est relativement réparti encore sur l'équivalent d'un territoire, d'une région, d'une géographie.
Alors moi, j'ai pas très 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 bien compris, mais c'est-à-dire que toi, opérateur, tu vas déployer donc de l'hyperviseur chez tes clients pour déporter certaines fonctionnalités au réseau.
Exactement. Donc tu as par exemple, pour te donner trois exemples, si tu pars chez le client, tu as un routeur chez le client qui va être très très simple. Par contre, qui va avoir une puissance de calcul type X86 dessus. Et suivant que le client veuille un pare-feu, un load balancer, terminaison SSL, du filtrage d'URL, etc. Mais en fait, tu vas activer ce bout de soft chez le client. Donc tu peux voir l'équivalent, c'est quasiment un routeur avec l'équivalent d'un PC à l'intérieur. Tu vas plutôt avoir ça chez le client, que tu vas pouvoir activer, désactiver la demande, et puis il faudra le gérer lui-même. Après, dans ton point de concentration réseau, peut-être que tu vas avoir des fonctionnalités de sécurité, comme la protection des nids de service. Tu vas de l'avoir au plus proche du client pour que tu puisses la distribuer d'une manière plus souple. Et dans ton grand centre d'hébergement, tu vas plutôt avoir des choses comme ton cœur de réseau mobile qui va être virtualisé. Donc en fonction des cas d'usage, tu vois, la distribution géographique pourrait être très différente.
Mais ça va pas te coûter plus cher, toi, opérateur ? Parce qu'avant, tu lui fournissais un vieux routeur tout simple qui ne faisait que du routage. Et là, en fait, tu vas devoir lui passer quand même pas mal de puissance CPU.
Pas mal, ça dépend. Mais en fait, historiquement, qu'est-ce que tu faisais chez le client ? Tu faisais ce qu'on appelle du rack stack. Donc justement, tu donnais ce que tu disais, tu mettais un routeur. Par contre, après, il voulait pare-feu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies le technicien une deuxième fois. Il installe un pare-feu, il fait son recable, etc. Après, il voulait, je sais pas moi, du VPN, ton VPN, il fallait un concentrateur séparé, donc tu le renvoies une troisième fois. Et là, l'objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle le chemin qu'on dit en français, le truck roll. C'est-à-dire, tu mets un équipement une fois chez le client. Effectivement, il va peut-être coûter un peu plus à la base. Par contre, tu peux activer des composants logiciels, donc c'est VNF à la demande, tu les charges, tu les actives, tu les licences, etc.
Il faut voir qu'il y a aussi les usages et les modes de consommation qui ont complètement changé. Et avant un client, il acceptait d'attendre 3 semaines que son nouvel équipement arrive et soit racké. Maintenant, il veut la nouvelle feature de suite, quoi. Donc, si tu sais pas le spawner le service dans les 5 minutes, alors que en face, dans son cloud, il arrive à le faire, il vient te voir, il te dit monsieur, vous avez un problème, je vais voir votre concurrent. Donc oui, il y a une course à l'agilité en ce moment pour délivrer de plus en plus rapidement ces features, et en particulier la sécurité qui est vue au-delà de la connectivité, hein, parce que ce qu'essaye de faire l'opérateur réseau, c'est d'éviter d'être vendeur de tuyaux. Donc il va vendre tout un tas de services ajoutés, hein, du cache, de la compression, de l'optimisation réseau et de la sécurité bien sûr. Et donc ça permet mais aussi de remonter dans la chaîne de valeur, et d'un point de vue client, de vendre des services à valeur ajoutée.
C'est bon, là, avec la softwareisation, le truck roll et autres, je pense que l'Académie française s'est évanouie.
Ah, mais je pense que tu vas nous éditer ça, et puis tu vas nous les corriger, parce que après truck roll français...
Bon, est-ce que le NFV, ça fait gagner en sécurité ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant le NFV ? Parce que raquer des firewalls, faire de l'IDS ou mettre un endpoint, un VPN SSL, ça nécessite pas de virtualisation, quoi. Est-ce qu'il y a des éditeurs de logiciels ou de produits de sécurité qui fournissent des services spécifiques qui ne fonctionnent que si tu as du NFV ?
Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, il y a la micro-segmentation, d'apporter du filtrage au plus près de la VM, et puis finalement de plus avoir à gérer tes filtrages par zone ou par VLAN, où c'est vraiment... de façon beaucoup plus granulaire.
Mais ça se fait surtout beaucoup dans les centres d'hébergement quand tu changes de fabrique réseau, mais je pense que c'est plus le côté SDN, hein, tu vois, c'est plutôt la partie plan de contrôle qui te permet de faire cette segmentation là. Après, effectivement, tu vas peut-être utiliser des mini pare-feux virtuels que tu vas mettre dans ces micro-segments, etc. Mais comme ça, de but en blanc, je pense pas qu'il y ait vraiment de gros cas d'usage qui n'existent pas dans la vraie vie, mais sur du vrai hard, sur des appliances, etc., qui n'existent pas dans le monde NFV. Dans le monde NFV, je n'ai pas l'impression que les gens ont recréé quelque chose en disant « Ah non, ça n'existe que dans le monde virtuel. » Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui me vient à l'esprit.
Après, je crois qu'il y avait aussi une limitation, alors je ne sais plus vraiment où ça en est, mais qui était, je crois, de l'ordre d'un giga bit par seconde, justement pour le NFV. Et parce que j'ai vu passer, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, un éditeur de solutions de load balancing qui disait pouvoir faire du 40 gigabits sur du NFV. Et
Ah, tu peux,
voilà,
ouais,
je.
tu peux maintenant. Ah, non, mais en fait, de toute façon, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de groupes de travail. Comme disait Sylvain, tu vois, t'as la partie OPVN qui fait plus les éléments open source, etc. Et après, tu as pas mal de telcos aussi et d'équipementiers qui, eux, sont focalisés sur comment améliorer la performance. Donc, tu vois, si t'as du x86 pur et dur, sans aucune optimisation, sans aucun chipset, sans aucun bus spécifique, tu vas peut-être faire 100, 200 mégas, etc. en fonction de l'application. Il y a 1 ou 2 ans, on commençait à passer la barrière des 10 gigas, et maintenant, sur des choses optimisées avec les derniers processeurs Intel, les derniers bus, les derniers TC, etc., des PDK et autres, tu arrives à faire du 40 gigas. Après, il faut regarder quel est le mix de trafic aussi, quel est l'applicatif, qu'est-ce que tu fais avec tes paquets, etc. Et tu vois, c'est un peu aussi la course aux annonces. Mais je pense qu'aujourd'hui, franchement, faire des choses qui tournent entre, nous, on a fait des tests et entre 6 et 8 gigas sur du trafic, ce qu'on appelle IMX, donc des tailles de paquets moyennes, avec pas trop de fonctionnalités appliquées au paquet, c'est ce que tu arrives à faire sur un équipement relativement standard.
Ouais, je suis assez d'accord, hein. On est passé d'un monde multi-giga à tout casser où on avait énormément de mal à monter en termes réseau et pas que pour plein de raisons, hein, parce qu'on avait tout un tas de bottlenecks dans le serveur, hein, que ce soit au niveau de la carte réseau, de temps en temps c'était le bus, de temps en temps c'était la CPU, de temps en temps c'était le logiciel, on faisait plein d'allers-retours au niveau kernel, on avait des problèmes d'accès disque dur, donc tout un tas de choses qui maintenant sont de mieux en mieux connues et ont été pas mal optimisées. Donc oui, moi je partage aujourd'hui, on est plutôt sur du multi 10 gigas aujourd'hui. Par contre, on n'est pas encore aux 100 gigas. Hein. Et quand on dit ça, on est encore multi 10 gigas, on est sur des fonctionnalités réseau qui sont pas trop poussées. Si vous commencez à faire énormément d'inspections protocolaires, que vous avez beaucoup de décapsulation à faire, voire énormément de chaining de fonctions virtualisées au sein de votre serveur, ça diminue énormément. Mais c'est en constante progression et les chiffres qu'il y avait il y a 3 ans ont vraiment plus rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et il y a énormément d'innovations en ce moment sur le sujet, donc on s'attend à monter encore assez fortement là dans les prochaines années.
Et en termes d'efficacité énergétique, ça donne quoi? Parce que je disais aujourd'hui que le Bitcoin consommait l'équivalent du Danemark en électricité. J'imagine que si on passe sur du x86, par rapport à des ASIC, la dissipation de chaleur, la consommation doit être pas négligeable.
Oui, ben c'est une vraie problématique parce que si tu prends ton data center, très souvent le facteur limitant c'est l'énergie. Tu prends ton POP, c'est un site réseau, le facteur limitant c'est souvent l'énergie. Bon, quand tu le poses chez le client, ben ça dépend aussi de l'énergie qu'il est capable de te donner. Donc l'énergie, ça reste toujours un problème majeur et qui va te limiter dans tes déploiements. Est-ce que tu es mieux en termes de consommation électrique entre un serveur, on va dire plutôt un cumul de serveurs versus un routeur? Ben, tout dépend des fonctions. Si c'est des fonctions réseau où tu as énormément besoin de bande passante, rien ne vaut un bon vieux routeur. Si tu prends un firewall ou autre, ou même d'ailleurs, ben, si tu ouvres aujourd'hui une appliance firewall load balancer, tu verras qu'à l'intérieur, c'est très souvent une architecture x86. Donc tu t'as avec des cartes réseau un peu spécifiques, là bon, on a quand même moins de performance. Mais oui, c'est une vraie problématique et l'énergie, ça a
Mais je
toujours
pense,
été
Nico, il faut pas
un
essayer de
des facteurs
comparer, tu
limitants.
vois, un routeur de cœur de réseau avec des ASIC qui sont hyper spécialisés et qui vont pas regarder au-delà de la couche 3, peut-être quelque chose en couche 4, avec quelque chose qui va vraiment, comme disait Sylvain, tu vois, décapsuler, analyser, reconstruire, etc. Un routeur de cœur de réseau, l'objectif, c'est de faire transiter un paquet ou une trame aussi vite que possible, sans être influencé par le contenu. Donc et en fait, quand tu regardes dans les routeurs de cœur de réseau, quand tu pars dans le domaine optique, la première chose que tu regardes, c'est quelle est ta consommation, combien de watts par terabit. Est-ce que c'est 100 watts par terabit de bande passante, etc. Donc tu vois, c'est des échelles qui sont complètement différentes. Et c'est pas ça que tu vas chercher à remplacer avec du NFV. Ça fait aucun sens. C'est vraiment tous tes éléments qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, de logique, etc. en couche 7.
Si on veut parler des trucs qui sont pas bons, hein, en termes perf réseau, typiquement la latence. La latence induite par un équipement réseau ou par un firewall aujourd'hui versus la latence induite par un serveur, c'est pas comparable, quoi. Donc oui, il y a encore des problèmes. Mais si on parle de problèmes sécurité, prenez la résistance d'un DDoS d'une boîte qui potentiellement, via son ASIC, pourra faire des choses beaucoup plus performantes versus un serveur au niveau de ses cartes réseau qui, s'il ne fait pas suffisamment de traitement au niveau de sa carte réseau, va tout encaisser au niveau CPU et du coup, va complètement s'effondrer. Donc, en termes de sécurité, le passage sur x86 pose un certain nombre de nouveaux problèmes.
Juste pour rebondir sur ça, pour ceux qui ne se connaissent pas trop en réseau, historiquement, les premiers routeurs qu'on a connus fin des années 70, début des années 80 et autres, c'était que du CPU. Donc en fait, ils faisaient ce qu'on disait, tout en soft. Et puis, au travers des années, il y a les éléments, donc les FPGA, les ASIC, les DSP, etc. qui sont arrivés. Et en fait, l'objectif pour faire tomber un routeur, c'était de trouver le paquet que le routeur est obligé de traiter en CPU et pas dans le hard. Et en fait, tu parlais d'IPv6, Nico, les attaques de routing header sur IPv6, c'est exactement ça. Tu sais que quand tu fais du routing header et que le routeur est obligé de regarder dedans, c'est très souvent plus un ASIC ou un FPGA qui va le gérer, c'est la CPU. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui filtrent les routing extensions, les routing headers sur IPv6. Donc c'est tout genre de choses, quoi. Et ça, tu es en train de le répliquer dans le modèle NFV où tu as la CPU en elle-même. Par contre, tu as la carte réseau spécialisée, tu as le bus spécialisé, tu as le chipset spécialisé qui te permet d'accélérer ça. Donc c'est un peu une répétition de ce qu'on a connu dans les techno-réseaux dans les années 90-2000.
L'histoire est un éternel recommencement. Et dans la courbe du hype du Gartner... Vlad, tu avais une question, non ?
Non, vas-y.
Je voulais savoir où on en était dans la courbe de hype sur le NFV.
Moi, je dirais qu'on est dans la phase de désillusion, là. Il y a eu énormément de promesses qui ont été vendues les années précédentes. Là, on commence à se heurter, via les premiers déploiements, à la réalité du terrain, au fait que c'est naissant, au fait qu'il y a énormément... de technologies nouvelles qu'il va falloir développer pour que ça soit véritablement efficace et bénéfique, j'aurais tendance à dire, pour le marché des opérateurs, voire le marché des entreprises. Mais là, on est en bas, là, c'est-à-dire qu'on va bientôt remonter là dans les années qui arrivent, et on a bon espoir que, en particulier d'un point de vue business, ça nous aide beaucoup dans les années à venir.
Je suis assez d'accord avec toi.
Moi, je pense que
au fond du trou, c'est ça.
Ouais, enfin là pour l'instant on est au fond du trou là, et on va monter. Et honnêtement, c'est pour les opérateurs, c'est un peu je me transforme ou je meurs, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer l'avenir où on doit être beaucoup plus agile, où on doit développer et provisionner des features à la volée, de la sécurité à la volée, de la connectivité à la volée. Et donc tout ça, tout ce qui arrive là, ben ceux qui réussiront seront les nouveaux opérateurs de demain, voire il y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver grâce à ça, hein, puisqu'on je peux tout à fait fournir mon réseau et ma couche d'infrastructure virtualisée à des tiers qui vont poser des fonctionnalités réseau chez moi, et inversement je pourrais aller chez les autres. Donc c'est vraiment des modèles qui, avant on était des modèles très très monolithiques, là il y a beaucoup plus de partenariats qui se développent, et donc celui qui se transformera et qui fournira les meilleures offres ben aura beaucoup plus de partenaires et a beaucoup plus de chances de survivre au futur. Et ceux qui n'assureront pas bien cette transformation-là vont avoir beaucoup de mal là, dans les années qui arrivent.
Ouais, je pense que tu as vraiment touché à trois points clés, là, Sylvain. Il y en a un, c'est vraiment le fait que NFV et tout ce qui tourne chez NFV est encore en phase d'expansion. Donc tu as des nouveaux groupes, tu as parlé d'OPNFV récemment, je veux dire, ça ne s'arrête pas. Tu as encore pléthoré de gens qui se rajoutent, qui ont de nouvelles idées, qui veulent faire différemment. Donc, tu n'as pas encore, tu vois, cette concentration. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans ce trou-là, où tu es encore en phase d'expansion. On n'a pas encore eu les éléments de concentration. Et je pense qu'on est en train de remonter un peu tout doucement de ce trou-là, parce que les gens se sont rendus compte que certains cas d'usage fonctionnent. Donc, le CPE virtuel, on en a parlé, le pare-feu virtuel aussi, le cœur de mobile, le cœur de réseau mobile, pardon. Et après, l'autre cas d'usage qui est vraiment en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle Software Defined VPN. Donc historiquement, les entreprises qui construisaient leur réseau privé de type IPVPN, tu vois, utilisaient ce qu'on appelle le réseau privatif de l'opérateur, c'était géré par l'opérateur, etc. Et ce que tu vois arriver maintenant, c'est avec l'avènement de l'Internet et une qualité d'expérience qui est relativement correcte sur Internet, les gens, au lieu de faire des réseaux privés virtuels dédiés, en fait, le font via Internet, un peu comme les VPN IPsec que l'on faisait tous avec de l'OpenSSL, pas de l'OpenSSL, comment ça s'appelle ?
Tu parles Raccoon, IKE.
Ouais, enfin OpenVPN, pardon. Voilà, OpenVPN pour OpenSSL, OpenVPN et autres. Donc en fait, t'as vraiment des sociétés qui commencent à spécialiser ça. Et quand tu vas dans les entreprises, il y en a beaucoup qui réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont évoluer leur réseau IPVPN, où ils ont peut-être 2000-3000 agences de connectés via des réseaux dédiés, et utiliser Internet comme mécanisme d'accès. Et en fait, tu vas te retrouver justement avec cette histoire d'équipement réseau que tu vas mettre chez le client. qui va être relativement générique, et ben tu vas rajouter tes composants NFV dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. T'as plein de startups, on parlait de Versailles, Viptela, Silverpeak et autres. Donc tu vas vraiment voir cette démographie du réseau IPVPN et les aspects technologiques qui vont évoluer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Je pense que c'est même quasiment un sujet à part. Et une fois que tu bascules dans ce monde-là, bah, tu vas te retrouver aussi en concurrence avec des providers publics type cloud, Amazon et autres, parce que qu'est-ce qui empêche Amazon de devenir un opérateur et de fournir des services d'opérateurs en over the top? Et ça, en fait, il y a beaucoup d'opérateurs historiques qui ont presque plus peur de Google, Amazon, Azure et autres dans ce type de service qu'ils n'ont peur de leurs concurrents. Et c'est relativement intéressant, et c'est là ce que disait Sylvain avec l'agilité, etc. Je pense que SDN, NFV, toute la partie DevOps, la virtualisation, etc., c'est un mécanisme pour faire évoluer l'opérateur, parce que sinon l'opérateur est voué à mourir. Et je pense qu'ils sont quasiment tous rendus compte que c'était un peu ça quoi qui faisait avancer la boutique.
Bon, après, à un moment, il faudra quand même du câble, des antennes ou des satellites hein, pour faire transiter des paquets réseau, mais effectivement, la plus-value et je dirais le business, il n'est pas là. Quoi. Donc, et oui, la transformation des opérateurs est majeure. Aujourd'hui, un opérateur n'est pas un développeur de software, a du mal à s'interfacer avec des communautés open source, et donc tout ça, c'est des choses qui sont très très nouvelles. L'agilité demain elle est essentielle, et donc du coup faut passer sur des organisations agiles. Alors c'est toujours le grand mot hein, comment je deviens agile, comment je DevOps, on parle beaucoup de DevOps, est-ce que DevOps c'est adapté au monde du réseau ou pas, c'est des vraies questions. Moi je vais peut-être pas mettre des features tous les 4 matins dans mon infrastructure, parce que du coup ça peut rendre mon réseau instable et mon client il risque de pas forcément d'être content. Donc oui mais c'est des vrais challenges.
Et nous tu vois l'expérience DevOps qu'on a chez nous, parce que ça fait quelques années qu'on en fait maintenant, c'est le cœur de réseau, tu utilises encore cette technologie de ce qu'on appelle cette approche méthodologique de faire du waterfall, où tu as des cycles longs avec beaucoup de tests, où tu changes pas justement ce que tu disais tous les 4 matins, mais peut-être tous les 3, 4, 5, 6 mois. Par contre, pour tout ce qui est automatisation, éléments qui se trouvent en bordure de réseau, qui sont pas forcément en coupure du trafic, etc., bah, t'as justement ce cycle un peu plus agile ou DevOps qui te permet de faire ça, justement de compenser, de garder une très forte qualité de service dans le cœur du réseau. Par contre, d'avoir de l'agilité en extrémité, en bordure de réseau, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et je pense que c'est assez vrai chez beaucoup d'opérateurs.
Depuis tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup des limitations des CPU, et aujourd'hui, on voit des baies dédiées à la virtualisation avec beaucoup de CPU, beaucoup de RAM et du réseau, tout intégré. Mais est-ce qu'on vous pensez qu'on va pas voir arriver des espèces de solutions qui seront de ce type-là, mais complétées par des FPGA, c'est-à-dire des ASICs reprogrammables, un peu comme on voyait à une époque des serveurs dans lesquels on mettait des cartes accélératrices SSL pour compenser les problèmes justement du CPU sur la crypto?
Franchement, je sais pas. Nous, au début, quand ces plateformes sont arrivées, donc les plateformes HPC, là, hyperconvergées, etc., où tu as justement des solutions de rack chez certains équipementiers comme Evorack et autres, voire du Nutanix. Enfin, non, c'était Nutanix qui faisait ça, je crois, si je me trompe pas. Je sais pas où ça va aller, ça. Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que c'est assez flexible pour les opérateurs? Ou est-ce qu'on va partir plutôt sur du do-it-yourself et monter nous-mêmes? Je sais pas encore comment ça va évoluer, tout ça.
Ouais, c'est bien, bien malin celui qui sait comment ça va évoluer demain. Ce qui est très clair, c'est que on a quand même une tendance à avoir du commodity hardware, hein, un peu comme ce qu'on connaît de plus en plus dans les data centers. Il y a quand même des démarches assez intéressantes dans le monde du hardware autour de ce qu'on pourrait appeler de l'open source hardware, avec la démarche OCP qui a été lancée par Facebook. Donc il y a eu des grosses annonces ces derniers mois où les opérateurs ont dit ah, c'est une démarche qui nous intéresse, peut-être que partager des designs hardware entre nous spécifiques au monde du telco, ça peut faire sens. Je pense que ça va être une tendance forte, ou comme disait Nicolas, le do it yourself, c'est-à-dire je vais chercher ce qu'on appelle la démarche ODM, c'est-à-dire je vais voir directement le manufacturier comme par exemple un Quanta qui a les usines, et je lui dis voilà la spécification de mes serveurs, et je vais vous en acheter 1000, 5000, 10 000 du même format que je vais déployer dans mon data center, dans mes POP, au pied de mes antennes, ou voir chez mon client.
Mais Intel propose des CPU avec des FPGA intégrés. Et je crois qu'AMD fait la même chose aussi. Mais le problème, c'est qu'ils se mettent en partenariat avec Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Des CPU avec des FPGA intégrés. Et ils se mettent en partenariat avec des fabricants existants. Mais le problème, c'est que tant que c'est pas mainstream, tant que tu peux pas produire en fait une optimisation à partir de GCC pour un enfin, écrire du code en GCC et que ça te génère automatiquement un design FPGA,
À voir,
je
parce que
pense
justement,
que
tu vois,
ça
je pense
restera
qu'on
un
disait un
peu
peu, tu
niche
vois,
comme.
Intel a vraiment compris que faire des CPU, c'est une chose, par contre, le réseau, c'est là où tout est en train d'exploser, autant que ce soit du côté mobile que du côté purement réseau opérateur plus traditionnel. Et tu vois, des choses comme justement le DPDK, Intel, etc., à mon avis, à un moment, tu auras des choses qui te permettront de faire ça. Ça va être relativement intéressant de voir comment ça va évoluer. Et puis, tu auras historiquement, tu vois, la Freebox, où les premières box qu'on a vues, c'était exactement ça, c'était do it yourself, où quelqu'un est allé voir des constructeurs, ils ont fait leur propre design, ils ont pris leur propre chipset Broadcom. Et aujourd'hui, tu regardes, même chez, tu prends les équipementiers réseau, ils utilisent tous ce qu'on appelle du off the shelf, hein, ils achètent du chipset type Trident et autres chez Broadcom, et tu retrouves ça un peu partout. Donc, tu vois, il y a comme une, c'est devenu quand même très, très, très générique, et t'as vraiment juste les équipements de cœur de réseau, où la partie R&D est encore super avancée, où ils construisent des choses qui sont vraiment dédiées, mais en bordure de réseau, t'as beaucoup d'équipements génériques qui sont cachés, enfin, ou d'éléments génériques qui sont cachés à l'intérieur des boîtiers.
Oui, mais ils sont génériques. À partir du moment où tu dis, moi je suis générique, mais vous avez besoin d'avoir un processeur Xeon de telle famille, machin, parce qu'il a l'accélérateur qui va bien, et qu'il a un bout de FPGA embarqué, parce que j'ai un partenariat avec un fabricant de FPGA, bah du coup c'est plus du générique, quoi. Le jour où la gamme est discontinuée, le jour, enfin tu vois. Et je pense qu'il manque quelque chose pour qu'il y ait vraiment du. Enfin, que le hardware recompilable devienne mainstream, si on peut dire.
Après, c'est des problématiques économiques, hein. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un serveur avec une CPU et une GPU que quatre serveurs avec juste la CPU basique? Au début de NFV, on avait des cartes réseau, alors c'était super, hein. Elles envoyaient beaucoup de bandes passantes, hein, mais elles coûtaient trois fois le prix du serveur. Donc, est-ce que je veux virtuer sur ce type de plateforme? C'est pas forcément évident. Donc, il y a un aspect vraiment, je dirais, économie. Et puis, de toute façon, on rentre dans un monde software, hein. Le software aujourd'hui, c'est commodity hardware, c'est énormément de scale-out, c'est plus du tout du scale-up à l'intérieur d'une machine. Donc, est-ce que la démarche NPU, GPU va fonctionner? Peut-être, si ça devient générique, si c'est pas cher, c'est peut-être une piste intéressante à suivre. Est-ce que ça sera ça? J'en sais rien aujourd'hui. Ça évolue tellement vite. Il suffit de voir déjà il y a 2, 3 ans à quoi ça ressemblait et à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Donc oui, c'est une piste qu'il faudra suivre. Moi, je dis aujourd'hui, commodity hardware, ça a l'air d'être quand même ce qui est le plus suivi. Et là, ben, la démarche OCP qui vient de commencer auprès des telcos, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que partager des designs standards spécifiques aux telcos, parce que peut-être que le serveur standard classique qu'on a dans un data center n'est peut-être pas forcément le plus optimisé pour le telco. Et ça se trouve peut-être que demain, le data center standard, ça sera celui qui a la GPU à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, si on est beaucoup à acheter le même standard, ben dans ce cas-là, l'économique sera que ça sera ça le standard. Enfin, derrière, il y a des histoires, il y a des histoires de pognon très fortes derrière.
Oui, mais le truc, c'est que dès que tu fais du ad hoc, c'est 100 ou 1000 fois plus cher que si c'est un truc que tu peux acheter au coin de la rue et que tu as 50 fabricants du sud-est asiatique qui te proposent de te le vendre, quoi.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas des OTT, donc on n'achète pas des millions de serveurs. Par contre, si on est beaucoup d'opérateurs à se regrouper au travers d'initiatives communes pour essayer d'avoir un standard serveur, ça fait quand même des volumes non négligeables de serveurs, de CPU ou de cartes réseau à acheter. Et oui, si, ça serait pas étonnant que derrière on ait demain des serveurs plutôt standard telco, avec d'autres contraintes. Mettre un serveur au pied d'une antenne ou chez un client, voire dans un POP, ça n'a rien à voir avec mettre un serveur dans un data center où la sécurité physique, le cooling ou l'énergie est souvent beaucoup plus disponible que ce qu'on va retrouver dans notre site technique réseau.
Et tu et t'avais déjà des choses comme ça chez les opérateurs, t'avais des efforts comme ATCA, qui veulent standardiser le type de châssis, le type de carte que tu mets, etc. Donc, tu vois, c'est pas la première fois que les opérateurs regardent ça. Après, je pense que, comme disait Sylvain, tu vois, des trucs comme OCP, enfin, Open Compute, on puisse le voir en poupe. Après, à voir, parce qu'ils ont tendance à designer après pour du web scale. Est-ce que ça va être le bon design pour les opérateurs? Ça va être relativement intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais c'était vraiment très très spécifique, quoi. Ça fait super joli, ça fait bien, mais est-ce que c'est la réalité de l'opérateur? On verra.
Les opérateurs et les grosses entreprises, ou entreprises qui ont leur propre data center ou leur gros réseau.
Ah ben, quand on disait fonctions virtualisées réseau, hein, toutes les fonctions réseau que vous avez aujourd'hui dans votre data center, potentiellement, demain, on peut les mettre sur un serveur. Hein, donc, on a cité firewall, proxy, load balancer, network IDS, donc tout un tas de choses, effectivement, qui sont plus du métier d'entreprise. On parlait de virtuel CPE, au final, ben c'est un peu la même problématique que les UTM dans les petits sites ou dans les agences. Oui. Aujourd'hui, même un virtuel aujourd'hui, ben vous avez des virtual switch hein, depuis très longtemps côté data center dans le monde virtualisé. Donc toutes ces fonctions réseau là sont de plus en plus virtualisées. Donc ça peut remonter même jusqu'aux couches applicatives pour inspecter le trafic.
Bon, je crois qu'on a fait le tour là.
Ok, bah alors merci pour votre participation. Merci aux auditeurs de leur fidélité. Et à la prochaine fois.
À bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.